ポカピンポカピン、ポカピン。
这个我不懂的，你可能懂的不懂的。
Bonsoir, clôture hier mardi de la session ordinaire de mars dans les deux chambres du Parlement. Quel bilan peut-on dresser de cette session et quelle pourrait être en dehors du budget les autres matières prioritaires de la prochaine session? Nos invités dans cette émission sont Moïse Nyarugabo, sénateur RCD, il est en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Gaston Moussinema, député national de la majorité, membre du groupe parlementaire PPRD, il est avec moi dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir,
Emery Okunji, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire Ordre des démocrates et républicains, également avec moi dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Vos réactions nous parviennent déjà. Patrick Ngongo Tchamala de New Delhi en Inde. On a assisté à la session législative la plus mauvaise de la Troisième République. Le bilan est largement négatif puisque les députés de la majorité et de l'opposition, y compris les indépendants, éprouvent aujourd'hui des sérieuses difficultés à inscrire au bilan, notamment à la suite de cette session législative, une action d'éclat qui puisse amener la population congolaise à les applaudir. Kabawisti de Butembo Nord Kivu, les honorables parlementaires vont s'aller en vacances pendant que la question du découpage du pays en 26 provinces reste en suspens et plonge le pays dans l'inconstitutionnalité. En plus, on prétexte le manque de moyens pour ne pas envisager une session extraordinaire. Merci de nous suivre à Lubumbashi dans la province du Katanga sur 95.8 FM et partout dans le monde sur radiocative.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les deux chambres du Parlement ont clôturé hier mardi la session ordinaire du mois de mars. Une occasion pour elles de faire le bilan de cette session. Un bilan qualifié de maigre à la Chambre basse par Évariste Bochab, président de l'Assemblée nationale. Plus d'explications avec vous, Julien Nyamouini.
Évariste Bochab, président de l'Assemblée nationale, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour qualifier la production législative de sa chambre de moisson maigre. Cela au regard du nombre inférieur de projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale par rapport au nombre de points inscrits au calendrier de la session de mars. En fait, cela se répercute non seulement sur la prochaine session qui est budgétaire, mais aussi pour le reste de la législature. Comme on le sait, l'on s'achemine vers la dernière ligne droite qui conduit aux échéances électorales prévu en 2011, ce qui explique les propos fermes du président de l'Assemblée nationale dénonçant le sectarisme observé auprès des élus du peuple. Si quelques lois ont été adoptées par la Chambre basse, plusieurs arriérés ont été en revanche renvoyés à la session prochaine qui sera essentiellement consacrée à l'examen de la loi financière. L'absence de performance est due, d'après le président de l'Assemblée nationale, à plusieurs causes endogènes et exogènes, le manque de confiance et l'esprit sectaire qui caractérise les élus du peuple. Autant la question aura et débat adressé au Premier ministre sur la politique générale de son gouvernement par Jean-Luc Boussa a plus intéressé aussi les députés que le vote des lois. À la Chambre haute du Parlement, Léon Congo Adondo s'est déclaré satisfait. La production a été tout de même reluisante. 8 projets de loi ont été adoptés. L'interpellation du Premier ministre sur le statut des villes ou communes conférées à certaines agglomérations dans le cadre du contrôle parlementaire. Il faut ajouter sur cette liste la question orale avec débat adressé au ministre de la Défense. Comme on peut bien le constater, beaucoup de points inscrits au calendrier ont été également renvoyés à la prochaine session. Conséquence, c'est l'accumulation des arriérés législatifs.
Merci Julien Nyamouini, honorable Emery Okunji. Peut-on parler d'une session ratée?
Effectivement, la session de mars est une session ratée. Le bilan, comme l'a dit quelqu'un, le bilan est largement négatif. C'est une session improductive, c'est-à-dire la production a été la plus maigre de toutes les sessions que nous avions connues. Et ceci est dit aux affaires dans lesquelles la majorité s'est enlisée. Vous vous souviendrez de l'affaire Premier ministre, l'affaire Mouzito, ce qui concerne la question orale avec débat. la question orale avec débat a donné lieu à une motion de censure, sans oublier la question orale avec débat adressée à Madame la ministre du portefeuille. Vous vous rappellerez aussi de la violation de l'article 226 de la Constitution en rapport avec l'installation effective de nouvelles provinces. S'ajoute à cela l'affaire de l'institutionnalisation des réunions interinstitutionnelles en violation de la Constitution de la République. Il y a aussi l'affaire Martin Mokonkolé qui a été arrêté en violation de la procédure en la matière et le drame sur l'assassinat crapuleux de Floribert et Tchibéa, directeur exécutif de la voix de sans voix. Et vous ajouterez aussi à cela les travaux de restauration du siège de l'Assemblée nationale qui n'a pas attendu les vacances parlementaires. Voilà toutes les affaires qui ont, en tout cas, enlisé le bon déroulement des travaux à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, le bilan est largement négatif.
Et pour vous, c'est la majorité qui s'est évertuée à placer toutes ces embûches.
Mais effectivement, vous remarquerez que lorsqu'on a interpellé le Premier ministre, rappelez-vous qu'il est venu avec les militants de certains partis politiques, lesquels militants ont agressé la Chambre, l'honorable président même de la Chambre basse, et cela a exposé, a perturbé la sécurité, en tout cas, des députés au niveau du Parlement. Donc, les tableaux sombres que j'ai dressés ici est vraiment du côté de la majorité au pouvoir.
Mais il y a d'autres députés, honorable Okunji, qui nous ont avoué que nous avons fait un peu du Parlement buissonnier, un peu de l'école buissonnière. Hein, vous avez brillé par un certain absentéisme, les députés.
Ah ben non.
Majorité comme opposition.
Rappelez-vous que lorsqu'il s'agissait de voter, il faudrait que le quorum soit atteint. Et chaque fois que l'on votait certaines lois, le quorum était atteint. Donc même s'il y a des collègues qui étaient absents, mais la majorité était là, parce que d'autres aussi se sont excusés. Donc la majorité était là. Mais c'est la liste à laquelle j'ai dressé ici qui est à la base de cette improductivité de la Chambre basse du Parlement.
Honorable Gaston Moussemena, la majorité est-elle à la base de cette session ratée?
Bien, je crois qu'il faudra d'abord reconnaître et rectifier. Je ne crois pas que nous pouvons affirmer que la session a totalement raté, que nous avons raté cette session. Il est vrai que le bilan n'est pas largement positif, le bilan est maigre, tel que l'a dit notre président, parce que nous avons connu beaucoup de contraintes. Et il faudra ici que mon ami Okunji reconnaisse que toutes ces contraintes qui étaient à la fois endogènes et exigeantes concernent tous les députés, non seulement ceux de la majorité, parce qu'il vous a cité toute une litanie de problèmes que nous avons connus. Malheureusement pour lui, il a voulu seulement faire porter les chapeaux à la majorité, alors qu'il sait, par exemple, pour la question orale contre le Premier ministre, notre ami Boussa avait dénoncé beaucoup de choses, mais quand il est passé à la motion de censure, il a totalement changé les préoccupations qui étaient les siennes au départ. C'était là déjà des problèmes au niveau de nos amis de l'opposition que nous avons toujours soutenus. Parce qu'il faudrait qu'ils reconnaissent aussi que nous, de la majorité, nous avons soutenu toutes leurs démarches parce que ça va dans le cadre de l'exercice démocratique que nous voulons tous, que nous soyons de l'opposition comme de la majorité. Et là encore, quand il fallait présenter la motion de censure, vous savez, messieurs les journalistes, ce que nos amis de l'opposition ont fait. Ils nous ont totalement dessus en falsifiant les documents, en usant des faux. Cela a compromis la démarche même de cette motion de censure, ce qui a laissé non seulement l'opinion, même les députés de la majorité en désarroi, alors qu'on était prêts à chercher à savoir qu'est-ce que faisait exactement le Premier ministre. Nous dit que nos amis de l'opposition ont brillé par le mensonge, par la tricherie. Ils nous ont déçus, non seulement de la majorité, mais aussi l'opinion. Et là, il faudra comprendre donc que les difficultés que la Chambre a connues ne sont pas seulement les propres de députés de la majorité. Il faut quand même être honnête à ce moment parce que tout le monde a suivi que nos amis de l'opposition étaient soutenus dans leur démarche. Malheureusement, la tricherie, le mensonge, le faux usage des fonds a fait qu'on n'arrive pas à l'objectif souhaité par tous. J'ai dit bien souhaité par tous, c'est-à-dire le déballage de la gestion du Premier ministre. Ce déballage-là est souhaité aussi, je dis à haute voix, par les députés de la majorité. Il ne faudra pas que vous croyiez que ce sont les députés de la majorité qui ont bloqué les activités de cette session. C'est aussi, je le dis bien, les erreurs, les bévues commises par nos amis de l'opposition. Tout ce qu'il a cité, j'allais même parler du cas de notre ami commun, c'est une grosse chose de problème. Mais il faudra savoir que tous ces mois que nous avons perdus, il y a les travaux du 59, c'est une grande fête que nous sommes en train de préparer, on ne pouvait plus continuer à travailler parce que notre siège était déjà enlevé par ceux-là qui travaillent. Mais quand cela les tient, nous reconnaissons que la moisson était maigre et le président Evariste Mochab, qui est de la majorité, l'a reconnu sans embâge. Je crois qu'au lieu de parler de bilan négatif, il faut reconnaître tout de même qu'il y a eu beaucoup d'enjeux politiques pendant cette session qui a fait que les gens ont suivi les enjeux, les démarches, les exercices démocratiques pendant cette session. C'est quand même aussi enrichissant, il faut le reconnaître parce que nous pouvons aller à détail. C'est tout ce que nous avons commis en parlant des CLP qui a perturbé la majorité, en parlant de différentes motions trichées.
Voilà, ça vous l'avez déjà dit.
Voyez que nous sommes tous d'accord que le bilan est maigre, mais il faut reconnaître que c'est tout cela, c'est à cause de tous les députés, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition.
Honorable sénateur Moïse Nyarugabo, quel est votre bilan à vous au niveau du Sénat par rapport à la session de mars?
Peut-être avant de donner le bilan du Sénat, je vais quand même dire un mot sur ce que je viens d'entendre au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis quelque peu choqué d'entendre du député de la majorité que c'est à cause de la motion de l'opposition contre le Premier ministre qu'il n'y a plus eu de séance. Donc c'est parce qu'on a adressé une motion, même si les députés de l'opposition ont commis des erreurs, il y avait des signatures doublées et tout. C'est pour cela qu'on a pu convoquer les plénières. Donc je crois qu'il faut assumer la responsabilité parce que l'Assemblée nationale est entre les mains de la majorité du président de l'Assemblée nationale jusqu'au questeur adjoint, tous sont de la majorité. C'est eux qui convoquent les réunions, c'est eux. S'il n'y a pas eu du travail, ce n'est pas parce qu'on a adressé une motion de censure contre le Premier ministre qui n'a même pas réussi. Sauf si on nous dit que c'est parce que la majorité ne voulait pas que l'opposition corrige les erreurs qu'il y a eu dans la motion passée et fasse passer une autre motion bien corrigée contre le même Premier ministre. Alors, au niveau du Sénat, c'est vrai qu'on n'a pas aussi terminé toutes les lois qu'on aurait dû terminer, mais nombreuses des lois qui n'ont pas été terminées, c'est des lois dont on devait s'occuper au niveau de la commission paritaire. Et on ne veut pas faire la commission paritaire seule. Les lois qu'on devait voter au niveau du Sénat, on les a votées, comme la CENI, le Code agricole, la TVA, les statuts des magistrats, le statut du personnel militaire, le Code sur le marché public, la criminalisation de la torture, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication et audiovisuelle, la loi d'habilitation. On a voté quand même au moins une bonne dizaine de lois, et des lois importantes, comme le statut du personnel militaire, qui est une loi qui avait plus de 326 articles. Donc, pour nous, nous estimons quand même que le travail a été fait. Mais il y a d'autres lois qu'on devait finaliser avec les amis de l'Assemblée nationale. On n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas eu de commission paritaire dès lors que l'Assemblée nationale était presque en vacances déjà. Je veux dire qu'il ne se réunissait pas, donc on ne savait pas les joindre pour faire les commissions paritaires. Mais pour l'essentiel, il y a quand même une bonne dizaine de lois importantes comme la CENI, le Code agricole, TVA, statut, marché public, qui ont été votées par le Sénat.
Donc, on a compris par là, honorable Nyarugabo, que les problèmes de l'Assemblée nationale ont eu des répercussions sur le travail également
absolument,
du Sénat.
Absolument, parce que pour les commissions paritaires, par exemple, il y a une autre bonne dizaine de lois qu'on aurait dû finaliser en commission paritaire, mais on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait des problèmes à l'Assemblée nationale. Ça a eu un impact absolument visible sur le travail du Sénat, parce que le Parlement est bicaméral, les deux chambres travaillent ensemble.
On se souvient aussi, honorable Nyarugabo, qu'au cours de cette session, il y a eu le problème autour du vote de la loi sur la CENI qui a divisé les deux chambres.
Il y a eu un problème qui a divisé les deux chambres. La loi sur la CENI est venue de l'Assemblée nationale. Elle a été examinée au Sénat. Il y a eu un certain nombre de modifications. Ou alors, c'est pour cela que les deux chambres existent, c'est pour raffiner, c'est pour corriger, c'est pour améliorer, c'est pour avoir un produit bien fini. Et nous n'avons pas notre travail comme d'habitude, mais lorsque la loi est rentrée à l'Assemblée nationale, au niveau de la paritaire, ils n'ont pas accédé à ces modifications, à ces changements. Ils ont exploité l'article 135 qui veut que lorsqu'il n'y a pas de compromis au niveau de la paritaire, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui prime. Ils ont exploité ça. Et c'est la première fois depuis le début de la législature que cet article a été appliqué. On a compris, pour nous, il n'y a aucun doute, les précisions que nous avions apportées, les modifications que nous avions apportées étaient importantes sur le plan politique, mais ça gênait la majorité. Et la majorité a usé de sa majorité pour exploiter l'article 135. Parce que les modifications, c'était quoi? Nous avons introduit qu'au niveau de la CENI, il y ait la société civile. Parce que nous considérons que la société civile est une partie de la société, une partie importante de la société. On ne peut pas aujourd'hui dire que la société civile la considère comme certains individus qui se sont accaparés, si vous voulez, de la société. Alors que la société civile, c'est quelque chose, c'est une réalité. Les associations de droits de l'homme, les syndicats, le barreau, les médecins, le conseil de l'ordre, tout cela, l'ordre des avocats, l'ordre des pharmaciens, tout ça, ça fait partie de la société civile. Merci. Aujourd'hui, on ne veut pas dire que la société civile n'existe pas au Congo. Alors, refuser à la société civile de participer aux élections dans l'organe qui va organiser les élections, c'est une aberration, c'est une dérive.
Merci.
Et nous avions aussi créé des organes. L'Assemblée nationale a préféré qu'il y ait un seul organe, le bureau, alors que nous, on avait prévu et le bureau et une assemblée plénière. Parce que s'il faut donner à un seul organe le travail de conception, d'orientation, de décision, d'exécution, de contrôle, bonjour les dégâts, bonjour la fraude.
Merci honorable. Honorable Okunji, sur ce dossier de la loi sur la CENI, l'honorable Nyarugabo a dit que le vote de cette loi avait gêné la majorité, mais je crois que même l'opposition a été pour cette loi dans les termes dont elle a été votée à l'Assemblée nationale.
Eh bien, je crois qu'on a peut-être une compréhension un peu différente. C'est-à-dire, à notre attendement au niveau de l'Assemblée nationale, la société civile n'a pas été écartée. C'est que nous disons, et ça, vous savez, il n'y a pas d'avenir sur sans la lumière du passé. Regardez qu'est-ce que nous avions connu dans le passé. Vous remarquerez que la plupart des gens ou des hommes qui animent la société civile se retrouvent toujours d'un camp comme dans l'autre. Alors nous nous sommes dit, il faudrait éviter à ce qu'on réserve de postes au niveau du bureau à la société civile, lesquels postes seront occupés par la société civile qui se retrouve dans un temps comme dans l'autre. Regardez aujourd'hui, nous avons une société civile qui siège par exemple à la majorité au pouvoir. Et, donc nous n'avions pas exclu la société civile. Nous nous sommes dit que chacun, il y a 3 postes réservés à l'opposition, 4 à la majorité au pouvoir, mais les personnalités, les personnes qui devront occuper ces postes-là doivent être des personnes d'abord intègres, compétentes et au-dessus de tout soupçon.
Oui,
mais où peut-on trouver ces personnes-là? C'est dans la société civile, c'est dans le barreau, c'est dans les églises, c'est dans des confessions religieuses.
Mais honorable Okunji, il y a des sénateurs qui ont pensé en son temps que les discussions pouvaient continuer au niveau de la chambre paritaire, mais que l'Assemblée nationale s'était un peu précipitée de prendre cette décision.
En fait, je ne sais pas si l'Assemblée nationale s'est précipitée, mais je suis pour, en tout cas, la continuité. là, là c'est un peu trop tard, mais j'ai toujours été pour le dialogue et pour la continuité du débat, parce que de ce débat jaillira la lumière. Donc, c'est peut-être dû au temps que nous avions pour cette session et aux matières aussi réservées à la session. Mais, en tout cas, la société civile, une chose importante à retenir, la société civile n'a pas été exclue. Il appartient aux deux camps de choisir des personnalités compétentes, intègres dans la société civile. C'est dans la société civile qu'on trouve ces personnalités qui ne sont pas politiques.
Alors, il y a le journal, hein, Le Potentiel, qui a repris en ces termes les propos d'Évariste Bouchab. Je cite, « Cet édifice qui a servi de bouclier commun est en train de s'écrouler sous le regard de tous. » C'était par rapport à cette session. Comment vous interprétez ces paroles? Ça fait un peu peur, hein?
Ah ben oui. Ah ben oui, vous savez que cette question a été riche en événements politiques. J'ai donné la liste ici, donc des événements douloureux, malheureusement. Donc il faudrait que nous puissions rectifier les tirs. Parce que nous sommes une république qui se veut démocratique, et un état de droit. Donc un état de droit doit être géré sur base de lois de la République, des repères, des normes et des règles que tout le monde devra respecter si nous voulons faire avancer notre pays et reconstruire notre pays dans la concorde nationale et dans la paix. Nous devons respecter nos propres repères, nos propres règles, nos propres normes. Vous remarquerez que cette session a été une session de tous les enjeux au regard de ce qui s'est passé à l'institution Assemblée nationale, par exemple, où le président, le député le mieux gardé de tous les 500 députés a été atteint. Hein? Donc, dans ce climat malsain, vous comprendrez la suite. On ne peut rien espérer dans des conditions pareilles. Lorsque l'on viole manifestement et intentionnellement la Constitution, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre de bon? Ça sera l'anarchie, ça sera la jungle. Lorsque les honorables députés ont une mission de légiférer et de contrôler, mais lorsqu'ils s'adonnent à ces contrôles se butent quelque part. Donc, vous comprendrez par là que c'est la mauvaise gouvernance qui sera érigée en système de gestion.
Honorable Moussemena, vous avez fait allusion tout à l'heure au problème lié au CLP, ce nouveau courant qui est né tout récemment dans la majorité et qui a disparu presque, on dirait, comme il est né. Mais comment expliquer que ces querelles internes à la majorité puissent aller jusqu'à influencer, par exemple, les travaux d'une session parlementaire?
Messieurs les journalistes, vous devez savoir que quand on se retrouve dans la majorité, donc on gère, on doit tout faire pour sauvegarder la stabilité des institutions. Et quand un problème interne surgit, et ce problème est à mesure de déstabiliser les institutions, on doit s'arrêter, on doit réfléchir pour arriver à trouver une solution très rapidement. Donc c'est normal. C'est normal qu'un problème interne puisse déstabiliser toutes les institutions parce qu'il s'agissait d'un problème de la majorité. Dieu merci que le chef de l'État a tapé du poing sur la table et le calme est revenu. Vous avez reconnu vous-même que ce CLP a disparu très rapidement. Les auteurs de cette organisation informelle ont compris qu'il n'y avait pas opportunité de créer au sein de la majorité une telle organisation et pour sauvegarder aussi leur poste au niveau des institutions. Ils ont préféré tout simplement se taire. Je voudrais tout simplement revenir un peu à ce que Moïse a dit. Je n'ai pas dit que c'était à cause de la motion qu'il n'y a plus eu de plénière. Il est vrai que suite à cette motion, il y a eu des incidents. Et là, ce sont là les causes exogènes signalées par notre président de chambre. Et mon ami Emmanuel Koundi n'a jamais cessé de vous rappeler que le président a été même bousculé. C'est vrai. Et ces incidents-là avec les casques ont poussé le président à demander que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités. Et le gouvernement n'a profité pas parce qu'il avait un
problème. Cela ne pouvait pas attendre les vacances.
le gouvernement avait déjà un programme pour les festivités du cinquantenaire et en a profité pour faire les travaux. En tout cas, en enlevant les sièges, on ne pouvait plus faire autrement. Donc, il ne s'agit pas de la majorité qui a bloqué la tenue de séances au niveau de l'Assemblée, M. Moïse. Il y avait ce problème exogène, mais aussi vous devez savoir que nos amis de l'opposition, peut-être que vous les soutenez, n'ont plus été en mesure de corriger leurs propres erreurs. Parce que pour atteindre les 126 signatures, M. Moïse, je vous informe que quelques membres de la majorité les ont soutenus. Il y a eu des signatures de quelques membres de la majorité. Quand la majorité s'est ressaisie et la majorité a donné des consignes claires, je dis bien, la majorité a donné des consignes claires au niveau de notre institution, dans la question majoritaire, tous les députés de la majorité ont refusé d'appuyer la démarche de l'opposition et nos amis de l'opposition n'ont plus été à mesure de reconstituer les centres législatifs. Ce n'est donc pas de notre faute si nos amis de l'opposition ont toujours été incapables d'obtenir les signatures requises. Monsieur Moïse, excusez-moi, je suis de la majorité, je ne peux pas appuyer une démarche de l'opposition et même s'ils ne sont pas capables, ne me demandez pas à moi de les appuyer, je ne le ferai pas.
Un autre aspect du discours de clôture des Varistes Beauchamp repris par le potentiel, il dit, je cite, pour d'autres institutions, le respect de la Constitution devient une donne à géométrie variable. Garçon, c'est maintenant comment vous avez vous compris ces propos au cours de cette session.
Donc vous savez, mon ami Okundi vous a dit que c'était une session à beaucoup d'enjeux politiques. Il y avait beaucoup d'interprétations des textes constitutionnels. Souvenez-vous, il a essayé de parler de l'article 226, parce qu'il fallait à tout prix aller au découpage, par exemple. C'est vrai que la Constitution le prévoit, mais il y a eu d'autres lois qui ont demandé qu'il y ait la loi de la programmation de l'installation de ces provinces, lesquelles lois n'ont pas encore été adoptées au niveau de nos deux chambres. Voilà encore des problèmes. Donc chacun, selon qu'il est dans tel groupe, il interprète la Constitution à sa manière, tout simplement quand on est de l'opposition pour déstabiliser les institutions qui sont en place, ce qui est facile à faire. Et nous autres de la majorité, parce que nous avons le souci de veiller à ce que cette stabilité soit maintenue, parce que c'est une stabilité chèrement acquise après beaucoup de guerres que vous connaissez, nous devrions tout faire pour expliquer à nos collègues de l'opposition qu'il est vrai que la Constitution prévoit que nous allions à 26 provinces en dehors 3 mois, mais voilà les quelques lois qui manquent, organisons-nous ensemble pour que nous donnions à l'État, à la République, ces lois, afin qu'on y aille à ces provinces sans atteignement, sans problème aucun. Voilà tout simplement les problèmes. Donc, les interprétations sont selon les intérêts de chaque groupe. Voilà ce que notre président a voulu dénoncer tout simplement. Nous comprenons la Constitution chacun à sa manière.
Honorable Nyarugabo, vous rebondissez au propos des deux députés nationaux, mais il y a également des auditeurs qui nous écrivent. Hilaire Aguenonga de Bounia, province orientale, dit, à une année de la fin du mandat de nos sénateurs et députés nationaux, je pense que globalement le bilan au Parlement est négatif. Le rendez-vous est donc pris en 2011 car les alliances ont primé sur le bien-être de la population. Venant au Wabello de Matadiobakongo, je constate que rien n'est fait au cours de cette session parlementaire, que ce soit sur le plan de la production législative et surtout sur le plan d'application de ces lois votées au Parlement par le gouvernement. Donc le Parlement congolais vient de faire du surplus place au cours de cette session parlementaire, honorable Nyarugabo.
Non, je ne suis pas d'accord avec ce qui pense que la production a été. Si la production n'a pas été suffisante à l'Assemblée nationale, où depuis presque un mois l'Assemblée n'a pas siégé, c'est pas le cas au Sénat. Et nous venons de dire s'il y a des lois, une bonne dizaine de lois qui n'ont pas été terminées parce qu'il n'y a pas eu de paritaire, on ne peut pas faire autrement. Donc, je vais donner la liste des grandes lois. Comme la CENI, comme le code agricole, comme le marché public, et même toutes les autres lois qui étaient attendues pour le point d'achèvement, pour lesquelles le gouvernement nous demande aujourd'hui à demander la loi d'habilitation, comme la loi à l'aviation civile, comme la loi sur la TVA et le code douanier, les deux de ces trois lois ont été votées par le Sénat et restent à l'Assemblée nationale. Le code douanier n'est jamais arrivé au Sénat. Il est toujours l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Donc, je ne suis pas ici pour accuser la Chambre seule, mais je pense que chaque Chambre doit aussi assumer ses responsabilités. S'il y a eu des blocages au niveau de l'Assemblée nationale pour tout ce qu'on a dit, bon, ils doivent assumer la responsabilité de tous ces blocages. Deuxième chose, ceux qui pensent que le bilan est négatif de tout le mandat, ce n'est pas vrai.
Je pense qu'il faut qu'on prenne la liste totale de toutes les lois qui ont été votées depuis que la législature a commencé, qui en sont des centaines. Écoute, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autres? Je sais qu'il y a des lois importantes qui restent à voter, mais beaucoup d'autres lois importantes ont déjà été. Moi, par contre, je suis d'accord avec ceux qui pensent que les lois que nous votons, les résolutions et les recommandations que nous adressons au gouvernement ne sont pas mises en application, ne sont pas appliquées. Là, nous nous plaignons nous-mêmes. D'ailleurs, dernièrement, le président du Sénat a dit qu'il fallait qu'on fasse un bilan sur les lois que nous avons votées. Combien ont été mises en application? Pour combien de lois on a pris des arrêtés d'application, des mesures d'application? Les recommandations et résolutions qu'on a adressées au gouvernement, combien ont été suivies ou appliquées? Presque zéro. Là, il y a un problème. Alors, lorsque le député de la majorité dit que l'opposition vise à déstabiliser le pays et la majorité a le souci de sauvegarder la souveraineté, je crois qu'il devait avoir un peu d'humilité. Qui détruit ce pays? Qui dirige le pays? L'opposition ne fait que parler, quelques discours, quelques sorties médiatiques. Mais si rien ne va, c'est la majorité, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir. C'est eux qui ne font rien.
Honorable.
Oui, je veux simplement dire que c'est eux qui doivent assumer la responsabilité de l'échec de cette législature, tout ce qui ne va pas au pays, c'est eux qui dirigent. Et donc, essayer de dire que c'est parce que l'opposition a fait une motion ou l'opposition a fait une déclaration, ce sont des faux fuyants. C'est pas pour ça que les choses ne marchent pas. S'il y a une incapacité à diriger, s'il y a des enjeux, s'il y a des problèmes, je comprendrai. Mais qu'on ne veuille pas mettre ça sur l'opposition. Je voulais aussi dire...
Très rapidement, je vous en prie, honorable.
Oui, je voulais aussi dire que si on n'a pas installé les 26 provinces, ce n'est pas parce qu'il y a des lois qui n'ont pas été votées, parce que la Constitution, les 26 provinces existent selon la Constitution. On n'est pas en train de vouloir créer les 26 provinces. C'est juste l'installation des animateurs. Et si ça n'a pas été fait, c'est de la responsabilité du gouvernement qui n'a rien fait, qui n'a pas installé les provinces, qui n'a pas révisé la Constitution pour ne pas violer l'article 226, qui a attendu jusqu'à l'expiration. Nous sommes en violation continue de la Constitution depuis le 14 mai.
Merci,
et là, c'est le gouvernement qui n'a rien fait. Et même les lois qui n'ont pas été votées, c'est le gouvernement qui exécute sa politique, qui doit présenter ce projet de loi pour être voté par le Parlement. Il ne faut pas attendre qu'un député ou un sénateur de l'opposition conçoive des lois pour aider le gouvernement à appliquer sa politique, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec la politique.
Merci, honorable. Permettez que je vous arrête à ce niveau. À moins d'une année de la fin de la législature, quelles pourraient être, en dehors du budget, les matières prioritaires de la prochaine session? C'est la deuxième partie de cette émission. Les avis sont partagés, mais la loi sur la CENI, la réforme de la justice et celle de l'armée sont, d'après les députés interrogés, à classer parmi les autres priorités de la prochaine session. On écoute respectivement le sénateur Jacques Joly du MLC, le député Louméa, le sénateur Tikismou Laïla et l'honorable Viti Katouma. Ils sont au téléphone de Kéline Couté et Samuel Kassal.
Il faut résoudre cette question de la CENI pour que la CENI ne soit pas impliquée dans ce processus de manière à ce que nous puissions avoir éventuellement une bonne sélection. Il faut résoudre rapidement la question de l'architecture politico-administrative en finalisant les mécanismes d'installation des nouvelles provinces et de tous les processus de décentralisation. Nous devons voter la loi sur la Cour constitutionnelle et éventuellement toute l'architecture relative aux juridictions judiciaires.
Mais nous m'avons dit, du groupe parlementaire des chrétiens démocrates appartenant à l'opposition, la réforme du secteur sécuritaire, c'est-à-dire la justice, l'armée et la police. Je crois que ça, nous devons les réaliser avant que nous votions les budgets. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans avoir voté ces lois-là.
Moulaïla Tengamandjoutine-Baptiste, rapporteur de la Commission de défense et sécurité au Sénat. S'il arrive qu'au Sénat, qu'on ait un minimum de temps, l'examen de loi, par exemple, la loi sur la Commission des droits de l'homme, il y a aussi la loi sur l'infraction des tortures, la loi sur la mise en œuvre du statut de Rome, la loi sur l'environnement, nous avons une loi sur la réforme de la police, nous avons une loi sur l'organisation et le fonctionnement de l'armée, nous avons la loi sur l'audiovisuel.
Le matériel prioritaire qu'on connaît, c'est entre autres la révision constitutionnelle, c'est la révision de la loi électorale qui s'est déjà adaptée par rapport à la révision de la Constitution. Il y a des lois qui sont en instance de se voter, comme les lois pour la pénale juridique, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. Je crois que toutes ces lois-là puissent être votées et promulguées par le chef de l'État.
Honorable Monsieur Mena, je rappelle que vous êtes député national de la majorité, membre du groupe parlementaire PPRD. Vous avez suivi, ça va un peu dans tous les sens. En plus, il y a cet auditeur maître Juvenal Monobo Mobi de Goma Nord qui vous qui dit « Je me demande à quelle autre session parlementaire l'examen de la loi organique de la police nationale sera-t-elle finalisée ? Est-ce que les députés nationaux considèrent cette loi comme substantielle pour un état de droit et donc son examen prioritaire comme je le perçois ? Je voudrais rappeler aux élus du peuple qu'à part la loi budgétaire, il existe dans un pays d'autres lois aussi importantes pour la vie nationale. Honorable M. Mena, d'après vous, quelles pourraient être les autres priorités à mettre à l'actif de la prochaine session, à part le budget, bien sûr ?
Merci, messieurs les journalistes. Je crois que nous avons tous accepté que l'année prochaine sera une année électorale. Donc, s'il faudra que nous allions aux élections en toute transparence, il faudra que nous arrivions à liquider toutes les lois qui vont permettre la bonne réalisation de ces élections. Voilà pourquoi, ici, de façon prioritaire, il faudra que nous revenions aux lois qui touchent à la réforme judiciaire, à la réforme de l'armée et de la police, parce que la sécurité lors des élections dépend de ces lois-là, parce qu'il faudra qu'il y ait des magistrats à tous les niveaux. Il faudra qu'on arrive effectivement à revenir sur la révision constitutionnelle, parce qu'on en a parlé. Il y en a qui ont fait beaucoup d'agitation à un certain moment, surtout à ce qui concerne le découpage aussi. Et si je veux particulièrement parler de l'article 226, il faudra qu'on dise un mot. Il faudra, parce que ce soit du côté de l'opposition et de la majorité, nous sommes d'accord que la loi électorale qui avait été adoptée la fois passée, qui nous a permis de nous retrouver au sein des institutions, devra être améliorée. Il faudra aussi qu'on arrive à toucher cette loi électorale. Voilà l'arsenal des lois, j'étais en train de vous le dire clairement, qui vont permettre une organisation transparente des élections sont d'une importance capitale, surtout que ça va toucher à la magistrature, à la sécurité et à la loi particulièrement.
Honorable Okundji, quelles sont les priorités, les autres priorités d'après vous?
Eh bien, les priorités, comme l'a dit mon collègue honorable M. Mena, c'est la loi électorale. Les priorités, c'est la réforme du système, de notre système judiciaire. Il faudrait qu'on finisse avec l'arsenal du système judiciaire. La loi sur l'éducation nationale, la loi sur la réforme de l'armée, la loi sur la réforme de la police. Il faudrait noter que la loi, en ce qui concerne la loi sur la CENI et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et des communications, ces deux lois ont été votées déjà au Parlement, envoyées au chef de l'État pour promulgation, mais ces lois n'ont pas encore été promulguées conformément au délai constitutionnel. Donc là, ça pose un peu des problèmes. Il faudrait que la loi soit promulguée aussi conformément à la Constitution. Donc, à tout cela, il faudrait ajouter aussi les contrôles parlementaires. Les contrôles parlementaires patinent. C'est ce qui va nous amener la bonne gouvernance dans notre pays. Il ne faudrait pas qu'on puisse bloquer les contrôles parlementaires. Il y a certaines commissions d'enquête parlementaires qui ont été décidées, dont la plénière a levé l'option, je vois ici, la commission d'enquête parlementaire sur la vente des immeubles de la Banque centrale, la commission d'enquête parlementaire sur la RBA, la commission d'enquête parlementaire sur la douane, les contrats douane, CTC, la commission d'enquête parlementaire sur le port de Matadi. Donc, toutes ces commissions parlementaires doivent aussi être à pied d'œuvre. Donc, c'est cette assemblée-là du travail parlementaire qui peut améliorer, en tout cas, la gouvernance de la République démocratique du Congo. Donc, il faudrait qu'on chemine avec toutes nos prérogatives, légiférer, mais aussi contrôler.
Honorable Moïse Nyarugabo, brève réaction par rapport aux priorités, aux prochaines priorités.
Je pense que sur les priorités, nous sommes d'accord. La première chose, c'est la réforme sur la justice. Il faut la loi sur la Cour constitutionnelle qui est déjà en paritaire, soit terminée, mais qu'on vote aussi la loi sur la Cour de cassation qui est toujours l'Assemblée nationale et celle sur le Conseil d'État. Deuxième niveau, c'est la réforme de l'armée. Nous allons voter la loi sur le statut du personnel militaire, mais il faut qu'on vote la loi sur l'armée elle-même.
la réforme de la police et enfin la réforme, les lois relatives aux élections. Quand je parle des lois relatives aux élections, je vois la loi électorale, mais je vois aussi tout ce qui concerne la décentralisation et la mise en application ou l'exécution de toutes les lois qui existent sur la décentralisation. Mais si nous allons voter la loi électorale comme on a voté celle sur la CENI, alors quelque part je veux dire ça ne vaut pas la peine ou alors on n'est pas sorti de l'auberge.
Merci.
Parce que la loi sur la CENI porte déjà les germes de la fraude. Et si on prend la même direction avec la loi électorale, eh bien, je veux dire, quand c'est au Mala, on risque de ne pas avoir beaucoup d'espoir pour avoir des élections libres et transparentes pour l'année prochaine.
Merci, honorable. Quelques réactions d'auditeurs encore. Théo de Kinshasa, nos députés ne veulent pas exercer leur rôle comme il se doit. C'est comme s'ils n'ont pas le pouvoir que leur donne la Constitution. Charles de Lubumbashi au Katanga, si vous de l'AMP reconnaissez la mauvaise gestion d'Adolphe Mozito, pourquoi le gardez-vous? Auriez-vous le courage de vous présenter en 2011? Ignace Ndala de Kolwezi au Katanga, les députés tous doivent se mettre à l'esprit que le peuple ne va pas continuer à laisser gaspiller son argent sans produire des résultats selon ses attentes et en un temps bien déterminé. Honorable Kundi, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Vous allez commencer les vacances parlementaires, mais on sait que les rapports de ces vacances sont classés dans les tiroirs et on n'y fait même pas. Ça ne fait pas l'objet d'une attention particulière.
Effectivement, d'ailleurs. C'est ce qui donne l'impression à nos électeurs comme si les députés, les parlementaires ne travaillent pas, puisque lorsque nous revenons avec les revendications, normalement, ces revendications devront trouver une solution. Mais nous avons l'impression comme eux que c'est classé dans les tiroirs. Il faudrait revenir aussi sur ce qu'a dit l'honorable Moïse Nyarongabo sur les recommandations, les résolutions que nous prenons à l'Assemblée nationale et qui ne sont pas exécutées par les institutions concernées, notamment le gouvernement. Cette attitude nous rend la tâche difficile. Vous savez que les gens ont difficile aujourd'hui à distinguer la mission des parlementaires à celle du gouvernement. Et les gens, lorsqu'il n'y a pas de fonds, lorsqu'il n'y a pas de route, lorsqu'ils ont la misère, ils croient que c'est les députés qui ne travaillent pas. Et lorsque nous venons avec nos revendications, nous les transmettons au gouvernement à travers des recommandations, des résolutions, mais malheureusement, ça reste lettre morte, le gouvernement reste sourd. Il faudrait souligner aussi une chose en ce qui concerne le rôle de député.
Très rapidement, c'est votre conclusion aussi.
Voilà, nous avons un rôle, une mission de légiférer et de contrôler. Et le mandat des députés est un mandat non impératif.
Merci.
Donc, tout mandat impératif de par la Constitution est nul.
Merci,
donc, il faudrait arrêter avec les consignes données aux députés.
Merci. Honorable Moussemena, sur les recommandations qui ne sont pas prises en compte, pratiquement.
Il faudra tout simplement être honnête. Les recommandations que nous faisons vont dans le sens du bien-être de la population. Et c'est parce que c'est ce qui sont contenus dans nos rapports. Mais vous devez aussi savoir que le gouvernement de la République ne veut qu'au bien-être de la population. Mais le gouvernement est tout simplement confronté à beaucoup de difficultés. Et ici, je parlerai principalement des difficultés d'ordre budgétaire. Avec les maigres moyens, le gouvernement éprouve des difficultés sérieuses pour construire des ponts partout où les députés signalent. Parce que le gouvernement a des priorités. Il voit d'abord les grands axes, le reste, ça viendra progressivement. Je crois que nous pouvons compter sur notre gouvernement pour la bonne marche du pays. Les choses évoluent lentement, mais sûrement.
Merci, honorable Nyarugabo. Un mot, je vous en prie, en guise de conclusion.
Écoutez, les lois, nous les votons, les résolutions, les recommandations. Mais si toutes ces lois et recommandations et résolutions ne sont pas appliquées par le gouvernement, c'est comme si nous n'avons tous rien fait. J'espère que ces lois que nous votons, le gouvernement fera un effort pour les appliquer. Les résolutions que nous avons votées fera un effort pour les mettre en application.
Merci, honorable Nyarugabo. Cette émission est terminée. Merci de votre attention. Et merci également à l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais, Kéline Kouté, Guy Matt et Samuel Kachak, sous la supervision de Péricipé Lamondo, coordination technique Bob Landou, mise en onde Guy Manzangou, présentation à l'Aïrung Mouchis. Au revoir.